Bonjour et bienvenue à tous dans le 8e épisode de What is Love. Je suis Aïssata.
Et je suis Maggie.
Et encore une fois, nous sommes de retour avec une histoire d'amour qui va vous pousser à vous poser des questions et avec un peu de chance, avancer dans vos réflexions quand il en vient à ce que vous recherchez en amour. L'invitée de cette semaine, en tout cas, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Elle m'a poussée à me poser beaucoup de questions parce que le thème qui est souvent revenu, ou le mot que vous allez souvent entendre dans l'épisode, c'est le concept de la compatibilité.
Et effectivement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Pas de spoiler, hein, mais elle en parle, la compatibilité et le concept de l'âme sœur, de l'homme qui est fait de toutes pièces pour nous. Donc, la personne qui... Moi, quand je pensais à une âme sœur, je me disais que l'homme que je vais trouver, en fait, ce sera... le mec qui à 100% me va, c'est le mec qui sait quand je ne vais pas bien, c'est le monsieur avec qui je suis toujours sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème quoi, genre ok on a des problèmes ici, là et tout blabla, mais sinon franchement on est fait l'un pour l'autre.
Genre quand tu es quelque part là, tu as faim, lui-même il ressent la faim, il fait
voilà,
il a faim.
C'est arrivé là-bas dans les télénovelas.
Il faut que j'aille lui acheter à manger.
Exactement. Il me connaît trop, quoi. Tu vois, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a jamais de problème trop gros, quoi. Et en fait, non. Dans la vraie vie, les choses ne se passent pas comme ça. Et une relation, il faut la construire. On ne la trouve pas comme ça, faite de toutes pièces pour toi. Et je trouve que c'était vraiment, vraiment, vraiment important pour moi, personnellement, de me rappeler ça.
Oui, et je pense que l'invitée le dit d'une belle manière. Elle dit, écoutez, vous allez rencontrer votre, on peut dire votre âme sœur, votre personne, en tout cas la personne avec qui vous allez être. Il y a 80% des choses que vous allez aimer chez cette personne, et puis un autre 20% ou peut-être 30% qui va vous saouler à un autre point. Et puis, ben, c'est la vie, en fait. Il faut juste accepter, il faut continuer, parce que personne n'est fait pour vous. Et je pense que c'est là où moi, ça a challengé certaines de mes réflexions, parce que la grande question que je me posais, c'est, dans ce 20-30%-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont non négociables. Et ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il y a des choses que, même si ça représente qu'une petite partie de la personnalité ou de la vie de quelqu'un, vous n'accepterez jamais. Dans la suite, il faut aussi faire des compromis dans les relations pour s'adapter et s'ajuster les uns aux autres. Est-ce qu'il y a des aspects de votre personne que vous refusez et que vous n'ajusterez jamais parce que pour vous, vous y tenez trop. Et c'est la question que je me suis posée. En vrai, ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à ce genre de questions, parce que quand j'étais en thérapie, ma thérapeute, il y a un an et demi, m'avait posé une question similaire en mode, oui, d'accord, tu veux être dans une relation, etc., mais qu'est-ce que tu recherches exactement? Et ne viens pas me dire, ouais, je cherche un homme qui est beau, grand, ambitieux et tout, ouais. Mais concrètement, ouais. Tu vois, quelles sont les choses, les attributs que tu recherches chez cette personne-là? Et j'ai eu du mal à faire une liste qui était un peu plus précise, un peu plus détaillée. Et quand j'écoutais notre invitée, je me suis dit, mais ok, et aussi quelles sont les choses que je ne changerai jamais chez moi et que je n'accepterai jamais chez quelqu'un? Je ne sais pas. Ouais. La réflexion ouverte, je vais commencer à y penser, mais je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as des choses non négociables peut-être de ton côté?
Oui, moi, j'ai des choses non négociables. Je voulais juste dire un truc avant de parler de mon non négociable. Je voulais dire qu'il faut aller même dans le spécifique déjà, d'écrire même comment tu voudrais être aimé par la personne, parce que j'ai remarqué que c'est important, ça. Parce que quelqu'un peut t'aimer, mais juste pas de la manière dont tu as l'habitude de recevoir l'amour. Tu vois,
exactement. Et ce genre de spécificités-là sont importantes.
Ouais, ouais. Vas-y. Moi, mon non négociable, là, c'est l'hygiène.
Comment ça?
Je ne peux pas négocier sur ça. Aïe. Tu vas me dire que non, toi, en fait, tu te laves 2 ou 3 fois par semaine, genre. Parce qu'après, en fait, on partage, tu vois, un même espace.
Ok, d'accord. Écoute, je ne m'attendais pas à
ou
ça.
Ou bien non. Voilà.
Non, c'est ton nom négociable.
Toi, non, mais je te demande, est-ce que toi, c'est...
Les mains de Gay. C'est les mains de Gay.
Non, il te pose... Je te pose une question. Non, c'est pas quelque chose que... Et je tiens à préciser, hein, que je ne suis jamais sortie avec quelqu'un, justement, effectivement, puisque c'est mon non négociable, qui n'est pas hygiénique, c'est tout.
Ok, je sais pas, je pense que Meggy a dû vivre des traumatismes dans sa dating life pour que l'hygiène... C'est la première fois que je parle à quelqu'un de relation et la personne...
Non, si quelqu'un me drague... Non, si quelqu'un me drague et que je sens que...
Mais ça s'apprend, enfin, je sais pas, tu peux...
Ça quoi? Ça à ton grand âge.
Ça s'apprend si tu décides que tu aimes tellement cette personne-là que la personne a des problèmes d'hygiène.
Mais on ne va même pas arriver à l'amour. Non, mais c'est ça, on ne peut pas arriver à l'amour.
Ok, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va vous laisser écouter l'épisode parce que là, on est en train de s'égarer. Et donc, on s'excuse, même je m'excuse pour nous. Écoutez
Je
l'épisode.
m'excuse aussi.
Bonne
Ouh.
écoute. J'espère que ça va aussi susciter chez vous des réflexions qui peuvent vous aider dans votre cheminement quand il en vient à l'amour. Et puis, on a hâte de savoir ce que vous en avez pensé.
Bonne écoute.
Pendant la pandémie, mes meilleures amies et moi, nous nous sommes toutes retrouvées sur le continent, toutes dans des pays différents, mais le hasard a fait qu'on soit toutes en Afrique. Donc on a décidé de se rendre visite, de faire le tour de nos pays respectifs. Et c'est lors de ces voyages-là, lors de l'un de ces voyages-là, que je rencontre Samuel, le doux Samuel. Et franchement, tout le monde a son opinion de Tinder. Tout le monde utilise Tinder pour différentes raisons et de différentes façons. Depuis que j'ai découvert Tinder Social, pour moi, l'application Tinder, ça a toujours été une façon de rencontrer de nouvelles personnes dans de nouveaux environnements. À ce moment précis, j'étais célibataire. Je n'avais pas nécessairement envie de m'investir dans une relation, mais j'étais ouverte à rencontrer quelqu'un. Et je pense que, comme toute chose, Tinder, c'est un outil et tout dépend de la façon dont tu utilises cet outil-là. Donc, moi, ayant cette application-là, c'était aussi une façon de rencontrer de nouvelles personnes et éventuellement rencontrer un possible match. Donc, même si je suis de passage, pour moi, c'est absolument pas un obstacle. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de relations longue distance, mais dans mon cas, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a freinée, étant quelqu'un qui voyage beaucoup. Si je rencontre quelqu'un et que c'est une aventure d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, ça ne me pose pas de problème. Et si je rencontre quelqu'un et que ça aboutit au mariage, aux enfants et à la grande maison, tant mieux. Donc, Tinder était déjà activé sur mon téléphone. Et je me suis dit, pourquoi pas? On va regarder ce que cette ville offre, ce que cette ville a. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Entre 2 swipes et 2 conversations, le courant était là tout de suite. On s'est super bien entendu très rapidement. Notre premier rendez-vous s'est déroulé dans un café. On a parlé honnêtement de façon très, très légère. Il n'y avait pas la petite volonté de flirter. Je pense qu'on était tous les deux très naturels l'un avec l'autre. Et ensuite, on a commencé à s'écrire. On s'écrivait presque tous les jours. On s'appelait, on apprenait à se connaître tranquillement. Et on a été tous les deux très honnêtes. Moi, je ne vis pas ici. Je suis là en vacances. Voilà. Donc, l'honnêteté, ça a été quelque chose aussi qui a toujours été très présent et qui a été présent dès le départ. Coïncidence, dans mes péripéties de voyage, au moment de partir, de quitter le pays en question, je manque mon vol. Et honnêtement, ce n'est pas de ma faute, je tiens à le préciser. Ce n'est absolument pas de ma faute. Petite parenthèse, donc j'arrive à l'aéroport, je fais mon enregistrement, mes bagages sont partis, je vais en salle d'attente, je me pose, je surveille le tableau, j'attends l'heure en question, 45 minutes avant l'embarquement, je vais me poser à la porte. Et une fois que j'arrive à la porte, je réalise qu'en fait, on me dit que l'avion est déjà parti. Pourquoi? Parce que sur le tableau d'affichage, l'heure n'était pas la bonne heure indiquée. Ce n'était pas la même heure qui était sur la carte d'embarquement. Et moi, me fiant au tableau, je suis arrivée trop tard. Je suis arrivée en retard. Donc, je manque mon vol. Mes amis sont partis. Je me retrouve coincée. Et qui j'appelle? Samuel. J'ai manqué mon vol. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoute, t'inquiète, viens à la maison et on va trouver une solution. Donc, au final, un séjour qui était censé durer 2 semaines en a duré 3. Et la dernière semaine, je l'ai passé 24 heures sur 24, non-stop, chez Samuel, avec Samuel. Pour plusieurs personnes, ça peut être quelque chose d'un peu trop de rentrer dans la vie de quelqu'un aussi rapidement, de partager complètement son espace de façon aussi brusque. Mais pour être encore une fois bien honnête, dans notre cas à nous, pour nous deux, il n'y avait absolument rien de bizarre là-dedans. On a tous les deux été très à l'aise et ça s'est fait naturellement. Donc, une semaine à apprendre à se connaître, à manger ensemble, à sortir ensemble, à faire nos courses ensemble, littéralement 2 semaines après s'être rencontrés. C'était quand même un gros bond. Mais je pense qu'autant lui comme moi, on n'a pas eu de problème à faire ce bond-là. Et je pense que ça a été un premier déclic de se dire, on n'a pas eu de transition. On est tous les deux rentrés à pieds joints dans une relation qui n'a pas vraiment eu de... Il n'y a pas eu de moment de... Je sais pas, il n'y a pas eu de pause, en fait. Il n'y a pas eu un petit... Tout de suite, on était tous les deux à fond, à 1000% dedans. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous laisse à la réflexion. Mais nous, dans notre cas, ça ne nous posait pas de problème. Donc, une semaine plus tard, je retourne chez moi et on se dit, on va faire un effort de s'investir, de nourrir cette relation-là, même si on est à distance. Et c'est ce qu'on a fait. On était tous les deux très présents. On a trouvé notre routine. On a trouvé ce qui fonctionne pour nous en termes de distance. Et on est tous les deux très investis. Et je crois que l'une des raisons qui a fait en sorte que cette relation longue distance-là fonctionne, c'est qu'on avait un plan. On s'est dit, écoute, on va se voir tous les 2 ou 3 mois. Donc, soit je viens, soit toi tu viens. On s'appelle presque tous les jours. Donc, de savoir que dans 1 mois ou 2 mois, je peux compter les jours, je sais que dans tant de temps, je vais me rendre là-bas, on va se revoir. Les formalités étaient très simples. Il a fait une demande pour mon visa d'1 an. Les billets, ils étaient déjà bookés. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où la personne qui est en face de toi te démontre de l'intérêt, ça fait plaisir, mais en plus de ça, pose des actions pour te montrer que oui, je veux faire l'effort de faire en sorte que ça fonctionne. Et voilà ce que je fais pour que ça fonctionne. Voilà ma part d'effort. Bah, tu te dis, OK, d'accord, c'est rassurant, ça fait plaisir, c'est confortant. Donc, on était tous les deux très passionnés, on était tous les deux très intenses, très vulnérables et très honnêtes aussi dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on recherchait et dans les projections qu'on avait pour notre relation et pour nous en termes de carrière, etc. Et je pense que c'est une des choses qui a fait en sorte qu'on s'attache très vite l'un à l'autre. Parce que on se projetait déjà énormément. Je n'aime pas appeler ça du love bombing parce que j'ai l'impression que ça a une connotation un petit peu négative. Dans notre cas, c'était juste, on y est allé à fond en fait. On est allé à 1000% dès le départ. Et heureusement ou malheureusement, ça m'a confortée dans mon désir de vouloir une relation passionnelle, mais une relation sûre. On a tendance à se dire que, ah, moi je préfère être avec quelqu'un qui m'aime, même si moi je l'aime pas. Le plus important, c'est que, non, dans les deux cas, on était tous les deux très investis. Et je pense que, moi, ça m'a prouvé que c'est possible d'avoir des relations comme ça. Donc, voilà, on a tous les deux ouvert notre cœur, on a tous les deux déversé tout notre amour, nous on a vocalisé nos désirs, nos fantasmes, nos peurs, nous. C'était vraiment une relation très fusionnelle, très très intense. Quand je dis on s'est donné à 1000%, on s'est donné à 1000%, et ça c'est dans absolument tous les aspects de la relation, autant en termes de projection que d'intimité. On n'a eu aucune barrière, et je pense qu'on a tous les deux respecté nos limites graduellement. Mais dès le départ, quand je parle de fusion, je parle de passion, l'attirance physique aussi était présente. Donc, c'était vraiment à tous les niveaux. Et je le regrette absolument pas. Ce qu'il y avait d'intéressant entre Samuel et moi, c'est qu'on avait 10 ans de différence. Donc, il était 10 ans plus âgé que moi. Et bien que ça a été probablement la raison de notre rupture, ça a aussi été la raison pour laquelle on s'est si bien entendu, lui et moi. C'est parce que on a des personnalités très similaires et parce qu'il était un petit peu plus âgé, il était passé ce par quoi moi je suis passée. Il pouvait gérer la personnalité que j'avais parce que il l'a déjà vécu en fait. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez, j'ai pas envie de dire pratique, mais c'était quelque chose d'intéressant parce que ça me permettait de naviguer dans un espace où j'ai quelqu'un qui ne patauge pas. Quelqu'un qui me donne l'impression de me connaître et qui sait ce qu'il faut faire dans X, Y situation. Maintenant, pour cette différence d'âge-là, c'est une différence d'âge, mais c'est aussi une différence de caractère et d'éducation. Et je pense que ça a été une grosse claque dans le visage de réaliser que tu peux être dans une relation fusionnelle et passionnelle et être avec quelqu'un qui n'est pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Et ça a été ma réalité parce que notre éducation, notre façon de fonctionner clashait très souvent. Et ce qui arrivait, c'est que c'était à plusieurs reprises des commentaires, des reproches qui me mettaient dans une situation où j'avais l'impression soit de ne pas être assez, soit de ne pas être assez bien, soit de ne pas faire les choses comme il fallait. On est dans une relation où on communique, on se parle, on est honnête. C'est quelque chose que j'ai partagé, mais c'était aussi quelque chose de tellement naturel pour lui que malgré le fait que je vocalisais, tu m'as fait ce commentaire-là, j'ai pas vraiment apprécié. Tu sais, ça fait partie de ma nature de faire les choses comme ça. Ça arrivait très souvent, très très souvent. Et donc nos disputes étaient tout le temps autour de cette polarité-là, un petit peu de cette différence-là. Nos disputes étaient toujours autour de moi qui ai fait quelque chose que lui il considère comme étant inacceptable, incompréhensible, et ça clash. Je n'ai pas envie de le diaboliser, mais je partage ma part de vérité. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, on est sorti. On avait un petit rituel le vendredi soir. C'était d'aller prendre un verre dans notre bar préféré. Donc, ce soir-là, on sort. Et on tombe sur un monsieur d'un certain âge, un Européen, je dirais dans la cinquantaine, qui travaille dans le même bureau que Samuel. Ce monsieur-là, on l'avait déjà rencontré, on l'avait déjà aperçu dans un centre commercial, on l'avait déjà vu et Samuel m'avait dit: Ah, j'adore le look de ce monsieur, je trouve qu'il s'habille trop bien. Chaque fois qu'il vient au bureau, il est toujours frais, machin. Quand je vais avoir son âge, 50, 60 ans, j'ai bien envie de m'habiller comme ça, ce serait le style que j'apprécierais. Donc, ce soir-là, quand le monsieur, il vient, moi, j'avais déjà pris un ou deux verres, j'étais bien, je m'amusais avec Samuel, j'étais avec mon copain, on était dehors. Et le monsieur arrive et il s'assoit à la place qui est libre autour du bar, et cette place-là était juste à côté de moi. Et donc, je poke un peu Samuel, je dis: Hé, bébé, regarde, c'est le monsieur avec qui tu travailles au bureau, là, celui qu'on avait croisé la dernière fois. Et donc, je me retourne vers le monsieur, je lui dis: Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Écoutez, je vous envoie un commentaire vraiment qui sort de nulle part, mais mon copain adore votre style. Genre, on trouve que vous habillez trop bien, vous avez vraiment, tu sais, un style particulier. Et on rigolait la dernière fois, on vous a croisé, et on se disait que, il me disait qu'il aimerait, enfin, il se projetait avec un style comme ça à votre âge. Le monsieur a super, il a pris le commentaire, il a rigolé. Il s'est retourné vers mon copain, il lui a dit bonjour, ils se sont parlé un petit peu, partagé des petites informations du bureau, etc. Là, la soirée continue, je continue dans mes verres, je danse, et quand je me retourne vers Samuel, il m'a lancé un regard, mais glacial. Glacial, et il me demande de me rapprocher, et il me dit: Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu lui parles en fait? Pourquoi tu lui partages quelque chose de personnel que moi je t'ai dit? Quand on s'est parlé et que je t'ai fait des commentaires sur ta tenue, c'était pas pour que t'ailles lui répéter ça, première chose. Deuxième chose, on est dans un bar. Tu sais comment les hommes blancs sont perçus dans des espaces dans des espaces noirs, on va dire. Toi, tu es assise, tu es avec moi, on est venus ensemble. Boum, ce monsieur-là arrive, tu te retournes, tu te jettes sur lui pour lui parler. Là, je dis: Mais attends, je me jette sur lui? Est-ce que tu es sérieux? Je me jette sur lui. Et je comprenais pas. Je comprenais pas ce que j'avais fait de pas correct. Je comprenais pas la raison pour laquelle, et ça, c'était notre première dispute, on s'est insulté comme jamais. Ça, c'est un exemple qui montre que dans ma nature sociale, je vais parler avec les gens, je vais rigoler, je vais approcher, il n'y a pas de problème. Tu sais, je connais mes limites, mais il y a certaines petites choses, il y a certaines actions, certaines attitudes que lui ne supporte pas du tout. C'est une atteinte à son ego, c'est un affront à je ne sais pas. Suite à cette première dispute, on a décidé de rentrer. En fait, on s'est disputé dans l'ascenseur, en allant dans la voiture, en arrivant dans le parking. Et devant la porte, il a dit: écoute, j'ai besoin d'aller prendre de l'air. On se voit plus tard. Et je lui ai dit: Non, tu vas pas prendre de l'air. On va pas créer une barrière là tout de suite dans une situation où on n'est pas bien. Parlons-en. et on essaie de décortiquer ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur le coup. Et au final, on est même retourné dans le bar. On est reparti après pour finir la soirée. Mais on avait cette facilité-là à exprimer en fait ce qui fonctionnait pas et à s'écouter. Malheureusement, c'était nos natures respectives. Donc, c'était amené à se reproduire encore et encore et encore. Et bien qu'on avait les outils pour avoir des échanges sains, et bien qu'il faisait des efforts de son côté certaines fois, c'était aussi quelqu'un qui était un maniaque du rangement, tout le contraire de moi qui suis pas mal désorganisée, mais organisée dans mon désordre. Il faisait attention. Au début, c'est quelqu'un qui allait me faire une scène parce que j'avais laissé des assiettes dans le lavabo. Et après quelques mois, bah, il va juste ramasser les assiettes dans le lavabo et se dire, bon, écoute, je vais pas faire tout un problème parce que... Donc, des deux côtés, il y avait des efforts qui étaient faits. Sauf que quand c'est une bonne partie de ta personnalité, de ta nature que tu traînes depuis, je sais pas, 10, 15, 20, 25 ans, que tu dois changer parce que tu as rencontré une personne, même si c'est une personne que tu aimes beaucoup, c'est lourd. Et à partir d'un moment donné, après un certain nombre de mois, je commençais à me sentir brimée dans ma nature à moi. Je commençais à me sentir brimée par rapport à ce que je pouvais faire, ce que je pouvais dire. J'ai commencé à regarder la façon dont je m'habillais. Est-ce que j'étais assez chic? Est-ce que j'étais assez classe pour lui? J'ai commencé à regarder la façon dont je parle quand on est, par exemple, autour de ses amis. Je trouvais que ça devenait un petit peu trop étouffant. Et c'était vraiment le gros point d'interrogation. Est-ce que je dois m'adapter un petit peu à sa personnalité, à ses désirs? Est-ce que je dois être un petit peu plus compréhensive par rapport à l'éducation et aux attentes qu'il a face à sa copine? Est-ce que je dois faire cet effort-là? Ou je dois dire, bah non, ça c'est moi et tu me prends comme ça. C'est comme ça que je suis. Et ça a été le gros point d'interrogation tout le long de notre relation. Donc oui, on avait des conversations saines, oui, on était à l'écoute et oui, on était tous les deux prêts à faire des efforts, mais à un moment donné, tu te dis, waouh, ok, là, c'est un peu au-dessus de ce que je peux faire. Parfois, c'est dans les choses les plus anodines que, on a des révélations, on a des déclics. Dans mon cas, il y a quelque chose, il y a une attitude, un comportement qui m'a vraiment fait me dire, ça suffit. C'est ridicule, en fait. J'ai pas à supporter ça. Parce que je faisais beaucoup d'allers-retours entre son pays et mon pays, il m'arrivait d'oublier des choses là-bas. Pas d'oublier, de laisser des choses là-bas. Je pense que là, c'est une demi-vérité que je dis, parce que la réalité, c'est que je commençais à m'installer là-bas. Donc, je laissais volontairement des choses. Et un jour, étant chez moi, je cherchais un objet que je ne retrouvais pas. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, ah, mais j'aurais pas laissé ce truc-là chez toi. J'ai cherché partout dans ma chambre, je ne retrouve pas. Il m'a envoyé un pavé. Un pavé. Un long message pour me dire, ouais, franchement, comment tu peux être aussi désorganisée? Comment tu peux penser que tu as laissé ça chez moi? Quand tu es venue, tu avais ça avec toi la première fois, mais après le deuxième voyage, tu es reparti avec, tu es allé chez toi. Mais le message était tellement long. Et je me suis dit, mais frère, tout ce que je t'ai demandé, c'est est-ce que j'ai laissé ça chez toi? Tu vas me faire une leçon de morale sur pourquoi je suis désorganisée, pourquoi... Et c'était lourd. Là, je me suis dit non. Ta réaction est disproportionnée par rapport à ce que je te demande. Et est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, parfois, quand tu es triste, quand ça va pas et que tu as besoin de réconfort, j'ai pas besoin de tes leçons de morale, ok? Je suis en train de chercher quelque chose, j'en ai vraiment besoin là. Tu peux juste me dire non, ce n'est pas ici. Regarde bien. Mais c'est pas parce qu'on a cette différence d'âge là que tu es la personne qui va donner des leçons de morale. Dans ses discours, dans ses commentaires, c'était toujours en mode le doigt levé, comment tu peux faire des choses comme ça? Et je pense que c'est en voyant ces quatre paragraphes autour d'une chose aussi anodine, j'ai oublié quelque chose, est-ce que c'est chez toi, que je me suis dit non, là ça suffit, pas à endurer ça. Et ça a réellement commencé à m'affecter en mode, mais moi en fait, ma vie c'est que le désordre. Alors que non, je pense qu'on a différentes façons de gérer ses espaces et son temps. Certaines personnes ont besoin que les choses soient classées dans un ordre précis, un ordre de couleur, etc. Moi, ce n'est pas le cas. Je fonctionne différemment. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que je ne vois pas pourquoi mon partenaire me ferait me sentir mal de fonctionner différemment. Je ne veux pas me sentir comme ça. Je ne veux pas ressentir ça. Et je ne veux pas être dans une relation qui me fait me sentir comme ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était terminé et que je voulais partir. Je lui ai dit, écoute, j'en peux plus. Ça m'affecte trop et je pense qu'une relation ne devrait pas dénaturer quelqu'un. Et là, je ne sais plus comment aborder la chose. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin qu'on arrête. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin qu'on arrête là. C'était pas quelque chose qui était facile à dire. Parce que moi, il faut savoir qu'après 1 ou 2 mois, je me suis dit, ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est fini. Je suis casée. J'ai même changé ma photo de profil WhatsApp. Moi qui ne m'affiche pas en couple sur WhatsApp, limite dans les groupes d'amis. Mais là, j'étais vraiment, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'était quelque chose d'assez difficile. Mais quand j'ai vraiment pris la décision, parce que je réalisais que je changeais, je devenais une autre personne. Et je pense que c'est très toxique, c'est très nocif comme comportement à avoir quand tu es avec quelqu'un, de te perdre et de ne plus être toi-même. Je me suis dit, ah, je vais, pardon, mieux, je m'arrête, je regarde. Soit je fais demi-tour, je fais marche arrière, soit on recadre la relation. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, franchement, voilà comment je me sens dans cette relation-là, malgré les sentiments que j'ai pour toi. Il faut qu'on arrête. Il n'était pas d'accord. On en a discuté, mais j'ai vraiment tenu mon bâton. Et après, il a dit, ok, d'accord. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce qui est bien pour toi, moi, j'ai jamais voulu te faire sentir comme ça, mais je comprends que ce n'est pas la dynamique de relation que tu as envie d'expérimenter. Il n'y a pas de problème. Ouais, gourmand de ça. Pendant 1 mois, c'était vraiment, enfin, c'était difficile. Quand tu as l'habitude de parler avec quelqu'un chaque jour, que tu t'es projeté de façon intense, de te dire que c'est fini, c'est terminé, que chacun a pris sa route, ça n'a vraiment pas été facile. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans mes ruptures avant, c'est qu'au-delà de perdre une personne, un ami, un partenaire, tu dois aussi enterrer tous les projets, les rêves, toutes les idées, tout ce que tu avais. Et je pense que c'est ça qui a été le plus difficile pour moi, au-delà même de perdre la personne. Donc bon, ah, en tout cas, je ne vais pas vous mentir, hein, on est là entre nous. Moi, je suis repartie vers lui. Je lui ai dit, écoute, j'ai réalisé quelque chose après. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on doit vivre, ou c'est quelque chose qu'on peut acquérir de quelqu'un d'autre. Mais ce que j'ai réalisé en analysant un petit peu la relation, c'est que il n'y a pas d'amour et de relation complètement fusionnelle ou parfaitement complémentaire. Quand tu rencontres quelqu'un, la personne n'est pas façonnée pour toi. Elle n'est absolument pas façonnée pour toi. Et c'est toi qui dois décider si ce que cette personne apporte dans ma vie, ce qu'elle met sur la table, vaut la peine de supporter les attitudes et les défauts et les comportements. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé. Mais si je savais au moment où on s'est séparés ce que je sais maintenant par rapport à ce qu'il avait à offrir sur la table, je ne serais pas partie. Je regarde en termes de personne, en termes de compatibilité, en termes de projection, et je me dis, ok, c'est ce genre d'homme que je souhaiterais avoir dans ma vie. Maintenant, je sais ce que je recherche. Et les défauts qu'il avait à côté là, je n'avais qu'à supporter, en fait. Et au fil du temps, on finit par s'ajuster. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons eu la chance d'avoir des modèles de parents où les personnalités sont complètement différentes. Et tu te dis, mais comment les deux personnes-là sont ensemble? Comment ces deux personnes tiennent depuis 25, 30, 40 ans? C'est peut-être cheesy ce que je vais dire, mais c'est parce qu'ils sont arrivés à accepter leurs défauts. Ils sont arrivés à accepter que la personne, elle va m'énerver, en fait. Elle va m'énerver à un point que, mais à côté de ça, son sourire, sa patience, son implication, son honnêteté, le travail qu'il fournit pour faire en sorte que ça fonctionne, le travail qu'elle fournit pour faire en sorte que je me sente bien, comment elle me fait sentir quand je pense à elle, comment il me fait sentir quand... Tout ça là, ça vaut la peine de supporter. Donc moi, c'est ce que j'ai appris de ma relation, de me dire que tout le concept d'âme sœur, on peut avoir des âmes sœurs, on peut avoir quelqu'un, tu te dis, waouh, cette personne-là me complète. Mais compatibilité parfaite, ce n'est pas quelque chose en quoi je crois. Et ce en quoi je crois maintenant, c'est que faire des compromis ne veut pas nécessairement dire te dénaturer. Changer ne veut pas forcément dire se perdre. Et ça, c'était une de mes grosses réalisations, mais aussi une de mes peurs. Je suis quelqu'un d'assez fier et je pense que de sentir dans une relation que le sol bouge sous mes pieds, de sentir qu'on veut me faire changer, pour moi, c'était non, 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 je suis comme je suis et puis je dois rester comme je suis. Mais c'est aussi un petit peu de fierté. Et après ça, d'accepter que m'adapter et changer certaines attitudes de mon côté aussi, et pas juste de lui, ça ne veut pas dire que je deviens une autre personne ou que je me dénature. Non, si tu es avec quelqu'un qui en vaut la peine, changer, c'est parfois, c'est presque inévitable. C'est accepter que la personne qui est en face de toi, la personne que tu aimes, a reçu une éducation différente, a une façon de voir la vie différente. Et tant que ce n'est pas irrespectueux ou que ça ne vient pas confronter de façon, on va dire, négative qui toi tu es et que vous pouvez cohabiter dans ce petit espace de différence, il faut supporter, il faut supporter et se sentir blessed d'être tombé sur quelqu'un qui nous complète, on va dire, à 80, à 70%. Quand je réalise, après une introspection, que j'ai peut-être fait une erreur et que je suis peut-être partie trop vite et que je repars vers lui, ah, Samuel me dit, ma chérie, tu es partie. Comme, pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que tu veux? Non, moi, j'essaye de passer à autre chose. C'est une relation qui était intense. C'est une rupture qui a été difficile pour moi. Je n'ai pas envie de relancer ça. Tu as pris ta décision, stick to it, et voilà. Donc, encore là, un autre apprentissage. Quand les sentiments sont impliqués, quand une personne décide de s'investir dans une relation et que toi, tu prends la décision de sortir, tu peux pas t'attendre à ce que quand toi, tu seras prêt à revenir dans la relation, la personne là va être là, elle t'aura attendu tout ce temps. Aujourd'hui, on reste en bon terme. Donc, c'est même pas qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'il s'est investi dans une autre relation. C'est juste que il a donné ce qu'il avait, il a pu donner. Il a accepté la rupture. Il est passé à autre chose et il n'a pas envie de faire marche arrière. Et je pense que moi, ça m'a pris du temps pour arriver à ce stade-là. Mais c'est le stade dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai donné ce que je pouvais donner dans la relation. J'ai appris ce que je pouvais apprendre. Et ça a été une rupture difficile. Croyez-le ou non, mes amis, Samuel est revenu. Très récemment, de façon très surprenante, je m'y attendais absolument pas. J'ai reçu un petit message qui me disait une pensée pour toi, je t'envoie des fleurs avec beaucoup d'émojis fleurs. Je me suis dit ah, pensée pour moi, tu m'envoies des fleurs. Ok, merci, je prends. Une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines après, un petit message. Ah, j'ai vu que tu étais en ligne, c'est drôle, j'étais justement en train de scroll notre conversation. J'ai dit ah. Il y a 2 semaines, fleurs, aujourd'hui, scroll notre conversation. Je le vois venir. Mais je ne pense pas que si Samuel revient aujourd'hui, ah, peut-être que c'est la fierté qui parle, hein, je ne vais pas mentir. Mais franchement, si j'écoute mon cœur et si j'écoute ma tête, je suis vraiment passée à autre chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu décides de tourner la page et te dire, OK, j'ai expérimenté ça a été comme ça, et ça n'a pas fonctionné, et puis on avance. J'ai pas nécessairement envie de me replonger dans cette dynamique de relation-là. Et peut-être que j'ai accepté aussi le fait que j'ai vécu une relation qui était unique, qui était particulière, mais que ce n'est pas nécessairement la personne pour moi. Et j'ai fait la paix avec ça. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, s'il m'appelle dans les 5 prochaines minutes et qu'il me fait déclaration d'amour total, malheureusement pour lui, je vais dire non. Émotionnellement, je suis passée à autre chose. Je recherche autre chose même maintenant. L'amour, c'est faire des compromis. L'amour, c'est de se dire, j'accepte cette personne parce que 80% de qui elle est me convient, me plaît, me parle, m'allume. Mais j'accepte aussi que le 20% qui reste là va me faire chier probablement pour le restant de ma vie. Mais c'est pas grave. Je la prends telle qu'elle est. Pour moi, c'est ça l'amour.
Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music, et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.